Chapitre 11. Une aventure. Une autre lettre de Miss Morrison à son frère qui produit sur celui-ci un prodigieux effet. Il abandonne sa cliente et amie. Agnès est laissée seule. Elle emploie quelque peu de son loisir à écrire une lettre à Miss Compton. Le jour suivant fut un jour à événements. Pour la première fois depuis qu'elles étaient à Londres, Agnès, en voyant sa tante se préparer à sortir, lui demanda la permission de sortir avec elle et reçut comme réponse « Vous pouvez venir si vous voulez !» Mais avant qu'elle eût achevé d'attacher son chapeau, Mistress Barnabé avait changé d'avis et lui disait « Ôtez votre chapeau, Agnès. En y réfléchissant, je ne désire pas vous emmener. Regardez toutes ces affaires à moi qui traînent dans la chambre. » Je vous ai dit que très probablement nous partirions par la diligence du soir et j'ai accepté, vous le savez bien, de sortir avec M. Morrison. Donc je vous serai bien obligé de me dire comment tout cela se trouvera emballé. Si vous voulez me permettre d'aller maintenant avec vous, ma tante, j'aurai parfaitement le temps de faire tout le reste pendant que vous serez dehors avec M. Morrison, reprit Agnès. Il n'y a pas sous la calotte des cieux une fille pour laquelle une tante veuve s'est presque ruinée, qui soit plus impertinente, plus agaçante que vous, Agnès. Mais je ne souffrirai pas que l'on me maltraite de la sorte. Vous resterez à la maison, s'il vous plaît, et vous ferez ce que je vous commande. Ou, avant qu'il soit 7 heures demain, vous vous en irez dans la rue pleurer pour quêter un déjeuner. Je voudrais bien savoir, en dehors de moi, qui est-ce qui voudrait se charger de vous sur la surface du globe entier. Connaîtriez-vous quelqu'un d'autre par hasard, mademoiselle? Si vous en connaissez d'autres, allez les trouver, le plus tôt sera le mieux. Mais si vous n'en connaissez pas, restez à la maison une fois sans grogner et faites ce que je vous ordonne. » Dans ces dures paroles, ils se trouvaient, mélangés à leur cruelle injustice, juste assez de vérité pour aller droit au cœur de la pauvre Agnès. Avant de quitter Silverton, Mistress Barnabé avait écrit à Miss Compton avec une pompeuse impertinence pour lui demander formellement de faire à Agnès une pension d'une centaine de livres sterling par an pour son entretien. Cette demoiselle avait répondu brutalement que si Mistress Barnabé et sa nièce ne changeaient pas constamment de résidence, elles auraient droit au secours que donne le bureau de bienfaisance de la paroisse. Cette épître bourrue, reçue la veille de leur départ, avait été soigneusement serrée par Mistress Barnabé, qui y revenait souvent lorsqu'elle voulait rappeler vivement à Agnès la dépendance absolue dans laquelle elle était vis-à-vis d'elle. Ainsi, tout espoir semblait interdit pour jamais de ce côté, et Agnès pouvait-elle oublier que même en présence des dangers de sa situation, Lady Elizabeth Norris avait très nettement déclaré que ni elle ni Lady Stephenson ne pouvaient se charger d'elle. C'était là de tristes préoccupations quand on saura qu'au lieu de se mettre à accomplir la tâche qu'on lui avait prescrite, Agnès était assise pour se livrer à ses pensées, on trouvera peut-être qu'elle ne montrait guère de sagesse. Mais il ne lui fut pas donné de rêver longtemps. À peine était-elle là, le coude sur la table, le menton dans sa main, qu'un coup violent frappé à la porte de la rue et des coups de sonnette simultanés la firent tressaillir. Aussitôt qu'on eut ouvert la porte, elle entendit le mélange de 2 ou 3 voix, parmi lesquelles elle distinguait clairement celle de sa tante. On parlait haut, comme des gens en colère, et un moment après, Mistress Barnabé faisait irruption dans la chambre, accompagnée du monsieur qu'il avait tant admiré dans la rue la veille. Plus 2 individus, de beaucoup moins bonne apparence, qui se tenaient collés aux talons de la veuve, bien plutôt avec un air d'autorité qu'avec un air respectueux. Pendant tout le reste de votre vie, vous vous repentirez du traitement que vous infligez à une femme, s'écriait Mistress Barnabé en s'adressant au héros de son aventure de la veille, qui n'était autre que le loueur de voiture chez lequel elle avait pris les chevaux et l'équipage qui avait servi à rehausser l'éclat de son existence pendant le mois dernier. Je vous apprendrai ce qu'une drogue de marchand de province tel que vous doit à une personne qui jouit d'une position et d'une fortune comme les miennes. Quelle idée vous a passé par la tête, misérable que vous êtes, de me poursuivre jusqu'à Londres et de me faire arrêter en pleine rue plutôt que d'attendre mon retour à Cheltenham ? Ce n'est pas difficile à dire, Mistress Barnabé, si toutefois c'est bien là votre nom, répliqua l'homme. Et vous verrez que je ne suis pas le seul misérable qui soit tout prêt à vous faire le même compliment. Cependant, moi qui connais le vieux dicton, les premiers venus sont les premiers servis, j'ai pris la peine de venir le premier. » Et vous prétendez, homme de rien, s'écria Mistress Barnabé d'une voix où la terreur luttait avec la rage, vous prétendez savoir que je ne puis pas payer votre note de 2,5 sous, mais je pourrais la payer 1000 fois. Cela, je ne saurais le dire, madame, reprit l'homme. Je ne continuerai pas à vous envoyer en prison si vous voulez solder le compte que voici, ainsi que les honoraires et les frais, bien entendu, comme cela se doit. Voici les articles. Il n'y en a pas beaucoup et cela ne monte pas bien haut. Pour 1 mois d'une voiture avec les chevaux à 25 shillings par jour. 37 livres sterling. Pour les gages du cocher, sa nourriture et sa livrée, 20. Idem pour le valet de pied et sa livrée, loué sur commande, 25. 82 livres sterling. À déduire pour les livrées si on les rend, 12 livres sterling. Reste dû, 70 livres sterling. Et en ajoutant tous nos frais, le tout ira de 77 à 78 livres sterling. Donc, madame, si vous êtes la grande dame que vous dites être, vous ne devez pas éprouver une bien grande difficulté à me donner un bon pour toucher cette somme. Tandis que je courrai recevoir l'argent, mes bons amis resteront ici. Après, je serai tout disposé à vous faire mes salutations en vous disant adieu. La colère de Mistress Barnabé était d'autant plus grande que ce que disait M. Simmons, le loueur de voiture, était vrai. Mais avec une promptitude incomparable, elle saisit le côté de l'affaire le plus défavorable au loueur. Elle lui demanda comment il se faisait qu'il vint ainsi poursuivre une personne qui avait toujours payé noblement à Cheltenham toutes les choses qui se paient comptant. Car au bout du compte, sa créance était de celle qu'on ne paie que par trimestre. Le marchand, d'abord un peu interloqué, s'était remis en répondant que le départ de Mistress Barnabé avait fait le plus mauvais effet et que, voyant qu'elle ne revenait pas, tout le monde avait dit qu'elle ne reviendrait jamais. « Et de quel droit supposiez-vous, homme audacieux, que je n'ai pas l'intention de revenir et de payer ce que je dois, comme je l'ai toujours fait ?»« Uniquement d'après vos propres paroles, madame. Vous avez dit que vous seriez revenue dans 2 jours, et au bout de 10, on n'avait pas entendu parler de vous. » Cet homme a des façons de parler qui prouvent à quel point il se doute peu de ce qu'est une lady, dit Mistress Barnabé, les yeux flamboyants et la figure cramoisie. Mais, monsieur, se retournant vers un des hommes de Bow Street, ne m'accordera-t-on pas le temps de prévenir mon avoué et de lui donner mes instructions à l'égard de cet homme ? Et, madame, selon la loi, vous devriez être déjà dans la prison pour dette et votre mandat d'arrestation converti en mandat de dépôt. Comme cela, tout serait régulier. Mais si notre société, à mon compagnon et à moi, ne vous déplaît pas, nous pouvons vous garder ici au lieu de vous garder là-bas. Pendant ce temps-là, vous enverrez prévenir les amis que vous voudrez bien mettre dans le secret. Les amis que je veux faire prévenir sont mes hommes d'affaires, monsieur, répliqua Mistress Barnabé avec le plus profond dédain. Vous ne vous imaginez pas, je présume, que je fasse chercher quelqu'un de bien né pour lui faire l'affront de se trouver en votre présence. Les grands mots ne mettent pas de beurre dans les épinards, comme dit le proverbe, et il dit vrai. J'ajouterai, moi, que les impertinences n'ouvrent pas les verrous. Il faudra qu'une note soit un peu plus longue que celle-ci, mon bonhomme, pour me mettre dans l'embarras, dit Mistress Barnabé en s'efforçant de rire. Quelle sotte vous faites, Agnès, continua-t-elle en se retournant vers le coin de la chambre où la pauvre fille terrifiée s'était réfugiée. Faut-il que vous soyez assez stupide pour rester là, assise, plus blanche qu'une feuille de papier, parce qu'un insolent marchand, flanqué de 2 agents de la force publique, s'est fait un malin plaisir de venir m'apporter une note qui date 1 mois? Faites-moi le plaisir de vous lever et apportez-moi mon pupitre. Je vais écrire à mon conseil. » Dans le désir d'obéir à cet ordre, Agnès se leva et se mit en devoir d'aller prendre le pupitre qui se trouvait à l'autre extrémité de la chambre. Mais tous ses efforts n'arrivèrent pas à lui redonner des forces. Pour l'amour de Dieu, allez un peu plus vite, mon enfant, dit Mistress Barnabé. Mais cette fois, Agnès faillit à sa douce obéissance habituelle. Elle ne se laissa pas tomber dans un fauteuil, elle s'y assit, sentant bien qu'en se trouvant mal en ce moment, elle ne ferait qu'augmenter les embarras de sa tante. « Je vais donner le pupitre, mademoiselle, » dit l'un de ces terribles hommes, avec un accent si voisin de la compassion que des larmes surgirent dans les yeux d'Agnès, prise de pitié pour elle-même, à la pensée du degré de misère auquel elle était descendue, pour qu'un pareil individu éprouvât de semblables sentiments. Elle le remercia et plaça le pupitre devant sa tante. Ce joli petit pupitre en bois de rose, qui avait contenu, qui contenait encore, les effusions flatteuses, sinon enchaînantes, de Milord Mucklebury. Pour la première fois, en faisant ce retour sur le passé, Mistress Barnabé se demanda si elle avait vraiment bien manœuvré. Mais repoussant cette idée désagréable, d'un brusque mouvement, elle ouvrit le pupitre et commença à rédiger une épître pour M. Magnus Morrison. Malheureusement, quoique cette épître n'eût éprouvé aucun retard, elle ne fut pas la première à atteindre l'avocat ce jour-là, le courrier de Cheltenham lui ayant apporté celle qu'on va lire. « Cher frère, ne m'accusez pas de vous avoir entraîné à faire la connaissance de l'élégante veuve Barnabé. Tout tendrait à faire croire que c'est une pas grand-chose, comme mon cher père avait l'habitude d'appeler ce genre de femme. » Je suis fâché de devoir vous dire qu'on a ici de forts soupçons à ce sujet. En nous quittant, elle a dit à tout le monde qu'elle serait de retour dans 2 jours. Il y en a maintenant plus de 10 qu'elle est partie et pas une âme n'a entendu parler d'elle. Ceci semble drôle et assez louche comme vous pensez. Mais ce n'est pas encore là ce qu'il y a de pis dans cette histoire, je suis fâché de le dire, oh, pas du tout, comme vous allez voir. Au moment de son arrivée à Cheltenham, elle a pris de fort belles chambres, un salon pour elle seule, ce qui fait toujours bien, la toilette et tout le reste allant à l'avenant, mais point de domestique, ni voiture, ni rien de ce qui constitue le genre high life. Maintenant, observez bien ce qui va suivre, Magnus Morrison, et je crois que vous aurez une notion exacte de l'espèce à laquelle appartient la personne à qui vous avez eu affaire. Mistress Barnabé n'eut pas plutôt fait la connaissance de Lord Mucklebury qu'elle se mit à vivre comme quelqu'un qui a des millions de livres sterling de rente, et ce qu'il y a de pire en ce qui me concerne, c'est qu'elle m'a cajolé de façon à me faire commander et ordonner pour elle une foule de choses. Je sais bien que vous allez me dire, Magnus, que la fille de mon père aurait dû être plus avisée. J'en conviens moi-même, mais sur ma parole, elle m'a si complètement trompée que je n'ai pas même senti un doute à l'endroit de l'exactitude de tout ce qu'elle me disait. Il est fort probable aussi que l'air si comme il faut que cette belle Miss Willoughby possède à un si haut degré a été pour quelque chose dans mon erreur. Après avoir dit tout ceci, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter beaucoup plus long pour vous avertir de vous mettre sur vos gardes. Vous prendrez grand soin, bien entendu, de ne rien faire qui puisse vous entraîner à cautionner Mistress Barnabé, ni à faire quoi que ce soit de ce genre. Pas si bête, me direz-vous. Tout Cheltenham ne parle que de cela, et ce matin, au déjeuner, on m'a dit que Simmons, celui qui a fourni sa voiture, ses chevaux et ses domestiques, est allé à Londres pour la découvrir, et que Rice, le mercier, ainsi que plusieurs autres, parlent d'en faire autant. Tout cela m'ennuie, mais je n'y puis rien. Il y a aussi un tas de gens qui viennent me trouver pour avoir des renseignements sur elle, absolument si j'en savais plus que n'importe qui à la table d'hôte. Cet original de Lady Elizabeth Norris m'a fait demander hier d'aller lui rendre visite, et quand je suis arrivé là, j'ai découvert qu'elle ne m'avait pas fait venir pour autre chose que pour me faire des questions sur cette Mistress Barnabé. Le colonel Hubert, à la noble prestance, était là aussi. Il était assis et écoutait chacune de mes paroles, absolument comme s'il était aussi curieux qu'une vieille femme, comme sa tante. Mais il faut dire, Magnus, que les hommes sont souvent tout aussi curieux que les femmes. Toutefois, ils n'ont pas appris de moi grand-chose, et cependant j'ai eu presque l'idée, à un moment, que le très haut et très puissant colonel prenait en note tout ce que je disais, car il tenait à la main son porte-crayon en or, et quoiqu'il eût l'air de griffonner sur la page d'un livre, j'ai très bien vu dans ses yeux qu'il m'écoutait. Je suis assez fine par nature, vous savez, frère, et j'ai attrapé pas mal de petits cadeaux de cette belle dame envolée. Il en adviendra ce qui pourra, mais je ne pouvais m'empêcher de penser, Magnus. et si c'était dans un livre imprimé, on qualifierait cela de remarquable observation. Je ne pouvais m'empêcher de penser combien un sentiment aussi vulgaire que celui de la curiosité peut gâter l'élégance des manières. Lady Elizabeth, qui m'a souvent dit que je parlais le français le plus exquis, et qui, avant la visite d'hier, semblait toujours ravie quand l'occasion se présentait de causer avec moi dans ce très noble langage, n'en a pas prononcé un seul mot pendant tout le temps que j'ai été là. Et lorsqu'une fois, j'ai voulu placer une phrase en français comme d'habitude, elle a pris l'air grognon d'un ours en disant « Soyez assez bonne, Miss Morrison, pour parler anglais en ce moment. » J'ai trouvé cela fort impertinent. Mais c'est égal. Pardonnez-moi la malheureuse boulette que j'ai faite en vous envoyant la veuve. Donnez-moi de vos nouvelles et croyez-moi votre sœur affectionnée, Sarah Morrison. » Monsieur Magnus Morrison n'était nullement remis du coup que ces nouvelles si désagréables venaient de lui donner lorsqu'on déposa entre ses mains le billet de Mistress Barnabé. On jugera de l'effet qu'il produisit en lisant ce qui suit. « Mon cher monsieur, il m'est arrivé ce matin l'affaire la plus ridicule et la plus désobligeante. Un méchant petit commerçant de Cheltenham, auquel je dois quelques livres sterling, a pris peur parce que je ne suis pas retourné là-bas à l'époque où l'on m'attendait. Le plaisir que je goûtais à visiter Londres d'une manière si agréable en a été la cause, vous devez le savoir. Toutefois, il a eu l'incroyable insolence de me poursuivre avec une assignation. Je viens donc vous prier de venir me trouver dans le plus bref délai possible. Votre caution, j'en suis certaine, m'évitera d'être obligée de me soumettre à l'indignité d'aller loger en prison pendant le temps nécessaire à mon avoué qui me sert de banquier pour m'envoyer la bagatelle qui me manque pour compléter la somme. Dans l'espoir de vous voir le plus tôt possible, cher monsieur, je demeure bien à vous, Martha Barnabé. » Monsieur Magnus Morrison n'avait pas l'esprit prompt, comme on dit, de sa sœur Sarah et se sentait pour l'instant absolument incapable d'écrire ni même d'inventer quelque prétexte plausible pour alléguer une absence qu'il décréta toutefois devoir être éternelle. Et il faut bien le dire, en prenant cette résolution, il fut bien mal inspiré. Car s'il s'était rendu à l'appel de la dame, il eût pu s'en faire une cliente comme il n'en avait encore jamais eu. Mais le mot « caution » l'avait frappé de terreur. Et oubliant tous les bistecs, tous les gâteaux au fromage, le porteur et les bons vins qu'il avait avalés aux frais de la veuve, il lui renvoya dire par l'officier de police porteur du billet qu'il était bien fâché, mais qu'il lui était absolument impossible de venir. En recevant ce message, qui était accompagné du commentaire d'une forte grimace, Mistress Barnabé pâlit légèrement. Mais elle se remit très vite en songeant à la rapidité avec laquelle se faisaient les opérations de vente. Et ayant encore une fois relevé ses yeux intrépides, elle dit avec une dignité que cette rebuffade avait bien peu mitigée « Je présume que je puis attendre dans mon appartement pendant que j'enverrai prévenir mon agent de change. Et, madame, vous voyez, il se peut aussi qu'il lui soit totalement impossible de faire ce que vous lui demandez comme cet autre gentleman. Nous ne pouvons pas rester ici à attendre toute la journée. Vous aurez déjà quelque chose à payer pour l'obligeance que nous vous avons montrée. Ainsi, vous ferez bien mieux de vous apprêter sans plus tarder. » « Vous ne voulez pas dire, monsieur, que vous allez m'emmener en prison pour cette misérable dette ?»« C'est toujours là que vont les dames qui gardent des voitures sans les payer, à moins qu'elles n'aient un mari qui puisse y aller pour elles. Et comme vous ne semblez pas être dans ce cas-là, madame, nous sommes vraiment obligés de vous prier de vous dépêcher. » « Grand Dieu, c'est à ne pas le croire !» s'écria la veuve, qui en ce moment était en proie à une véritable angoisse. « Comment, quand je vous affirme que j'ai des millions de livres sterling sur les fonds de l'État et que je puis les avoir dans une heure ?»« Tant mieux, madame, tant mieux pour nous tous, car dans ce cas, nous sommes sûrs d'avoir enfin ce qui nous est dû. Et si la chose peut s'arranger si aisément, il est tout à fait au-dessous d'une dame aussi intelligente que vous de faire tant d'embarras pour une nuit que vous irez passer à la charge du roi. S'il vous plaît, mademoiselle, ne pourriez-vous aider cette noble dame à prendre un bonnet de nuit et quelques petits objets, sans oublier une petite provision de menu monnaie, si je puis me permettre un conseil. Car là où nous allons, toute la différence entre un bon et un mauvais logement ne dépend que de cela. Dick, courez chercher une voiture, s'il vous plaît. Il était clair que toute remontrance était inutile et Mistress Barnaby, tour à tour se fâchant, tour à tour suppliant, fut bien forcée de supporter l'humiliation de la surveillance d'un officier de police quand elle passa dans sa chambre pour procéder aux préparatifs de son terrible changement de résidence. Ce qui fut le plus dur peut-être fut de s'entendre dire qu'elle devait partir seule. On n'avait aucun ordre qui permît de lui laisser emmener quelqu'un. Alors seulement, elle comprit toute la valeur de cette douce et vigilante bonté qui se manifestait dans chaque regard, dans chaque parole d'Agnès. Aussitôt sa première défaillance passée, elle s'était tenue assidûment auprès d'elle. Elle lui avait mis entre les mains un petit ouvrage d'aiguille, elle en avait pris un elle-même pour passer le moment pendant lequel, un des hommes étant dépêché vers M. Morrison, il lui fallait endurer la présence des deux autres. Mais quant à s'en aller seul, les hommes, aussi péremptoires que leurs ordres, répétèrent qu'il fallait s'apprêter, tout en promettant, si elle le désirait, de demander une permission afin que la jeune demoiselle pût venir la voir. « Vous pourrez vous épargner cette peine, brute que vous êtes !» s'écria Mrs. Barnaby, tandis qu'avec quelque chose qui ressemblait à un sanglot, elle rendait à Agnès le baiser que celle-ci lui donnait. « Je vous défie de me garder dans vos sales griffes plus que jusqu'à demain matin à cette heure-ci. Agnès, vous veillerez à ce que cette lettre soit mise tout de suite à la poste. Non, je vais la donner moi-même à la bonne. Elle arrivera entre 4 et 5 heures chez mon agent de change, je pense, et je réponds bien qu'il ne négligera pas l'affaire. Toutefois, il se pourrait que je ne puisse être revenu avant l'heure du dîner. Ne prenez donc pas peur, ma chère, s'il en était ainsi. Tenez, si vous aviez quelque chose à payer, voici la clé du tiroir à argent, vous savez. Vaudrait mieux partager le contenu du tiroir avec la jeune personne, tout de même, dit en riant l'un des hommes. « Pour que vous puissiez vider mes poches, peut-être, » répliqua la prisonnière irritée. « Avez-vous assez d'argent sur vous, tante ?» murmura Agnès à son oreille. « Largement, ma chère, et plus que je ne leur en laisserai, rapportez-vous-en à moi, » répondit la veuve tout haut. Ceci provoqua une nouvelle injonction, dépourvue de toute douceur, de partir immédiatement, et l'infortunée Mistress Barnaby, précédée de l'un de ses messieurs, suivie des deux autres, descendit l'escalier et monta dans un fiacre. C'est alors qu'Agnès commença à comprendre et à sentir pour la première fois de quelle nature était sa situation. Seule, absolument seule dans un logement garni, au beau milieu de Londres, complètement ignorante de l'état des affaires de sa tante, et si accoutumée malheureusement à lui entendre articuler les plus effrontés mensonges sur toutes espèces de choses, qu'elle n'avait aucune confiance en ce qu'elle disait à l'égard de la promptitude de son retour, ni de la possibilité de se libérer des droits qu'on avait sur elle. Où donc était son devoir? Que devait-elle faire? Au premier moment, en songeant à la position lamentable dans laquelle elle se trouvait, elle avait pensé que le danger d'être emmenée sur le continent ne pouvait pas être plus grand que celui où la plaçait ce qui venait de tomber sur elle et que, par conséquent, Lady Elizabeth devait être toute disposée à lui accorder l'abri temporaire qu'elle l'avait autorisé à réclamer d'elle au cas où elle se trouverait dans la pire des nécessités. Mais quand elle eut réfléchi avec plus de calme, elle changea d'avis. Le fait seul que le colonel Hubert était actuellement chez sa tante la forçait à décider, avec le cœur bien gros, qu'elle ne pouvait pour le moment accepter cette offre. Elle sentait que la gravité et le genre de malheur que sa tante Barnaby venait d'attirer sur sa tête avaient une importance tout autre que ce que la vanité et les coquetteries de cette dernière avaient pu amener jusqu'ici, et elle se disait que elle, Agnès, se trouvait distancée du colonel à une profondeur plus insondable que jamais. Pendant ces terribles moments, elle s'était avouée qu'elle aimerait mieux retourner à Hampton, chercher à gagner son pain, que de courir le risque de rencontrer dans les yeux de celui qu'elle aimait une bienvenue douteuse. Ce souvenir d'Hampton reporta sa pensée vers la personne dont la libérale bonté lui avait procuré dans un temps le seul foyer où elle se fût jamais trouvée heureuse. Était-il donc possible, dans les circonstances actuelles, que cette personne refusât d'accorder une sorte de protection à une jeune fille qu'elle avait si librement secourue et qui n'avait jamais rien fait de nature à la rendre indigne de son secours ? « Je veux lui écrire !» s'écria Agnès en se levant soudain comme si quelque chose la poussait. Dieu sait ce que ma malheureuse et encore plus folle tante Barnabé a pu lui écrire uniquement pour la vexer, et maintenant je puis, sans faire de rébellion, ni sans tromper personne, m'adresser à elle moi-même. » Cette idée fit naître un espoir qui sembla lui donner une nouvelle vie. Et d'une plume rapide, elle écrivit ce qui suit. « Je puis à peine espérer qu'une lettre venant de celle que vous avez déclaré ne jamais vouloir revoir soit favorablement reçue, et cependant, chère tante Betsy, permettez-moi de vous nommer ainsi une fois encore, comment puis-je croire que la bonne tante, dont la généreuse pitié est venue au secours de ma misérable ignorance il y a 6 ans, veuille m'ôter tout espoir de tirer parti de l'éducation qu'elle m'a donnée, en refusant de m'accorder une protection que je n'ai cependant déméritée en aucune façon. Hélas, tante Compton, jamais je n'ai tant souffert du manque de protection. Ma tante Barnabé, dont les affaires pécuniaires me sont à la vérité inconnues, a été arrêtée et emmenée en prison pour dette ce matin. Pendant les dernières semaines que nous avons passées à Cheltenham, elle avait considérablement augmenté son train de vie et j'ai plus d'une raison de croire qu'elle entretenait l'espérance d'être épousée par un lord dont elle avait fait la connaissance là-bas. Mais, il y a une quinzaine environ, le noble lord ayant changé d'avis est parti sans prendre congé d'elle. Je ne suis guère dans sa confidence, cependant, elle a si souvent répété devant moi et qu'elle était résolue à se venger de Lord Mucklebury et qu'elle était certaine d'obtenir de lui des dommages et intérêts, que je ne doute pas qu'elle ne soit venue à Londres dans l'intention d'intenter à ce gentleman un procès en rupture de promesse de mariage. Ce qui me confirme dans cette idée, c'est que la seule personne que nous ayons vue ici est un avocat, et le même esprit de conjecture qui m'a fait deviner ce que je vous dis me conduit aussi à soupçonner que cet avocat lui a persuadé d'abandonner ce projet. Car non seulement je n'en entends plus parler, mais pendant la semaine dernière, elle a semblé se consacrer entièrement à visiter les curiosités de Londres en compagnie de cet avocat. Pour ma part, n'étant pas très bien portante, ni très heureuse d'un genre de vie si éloigné du train paisible auquel j'ai été accoutumée à Hampton, je ne les ai pas accompagnées. Si ma tante Barnabé, dont je voudrais pouvoir vous donner des nouvelles, ne m'emmène pas d'ici, j'y resterai jusqu'au moment où le courrier de Silverton aura pu m'apporter une réponse. Ayez pitié de moi, chère tante Betsy. En vérité, j'ai autant besoin de votre pitié qu'au jour où, sous votre joli bosquet à Compton Bassett, vous vous êtes aperçu que je ne savais pas lire une ligne d'anglais. Comme j'ai souvent pensé à vos fleurs, à vos abeilles, tante Betsy, et combien j'ai désiré pouvoir être là pour prendre soin d'elles et de vous. Votre nièce respectueuse et reconnaissante, Agnès Willoughby, 55 Half Moon Street, Piccadilly, Londres. Quand elle eut terminé cette lettre, Agnès en acheva une autre qu'elle avait commencée pour Lady Stephenson, puis se dirigea solitairement vers une boîte aux lettres qu'elle savait trouver à peu de distance. Elle entendit tomber dans la boîte son importante dépêche à Compton Bassett avec la conviction que son sort dépendait de la manière dont elle serait reçue. Et revenant aussi lentement que possible, afin de profiter de la douce brise qui soufflait sur ses joues fiévreuses, elle remonta l'escalier sombre et rentra dans le salon solitaire, totalement incapable de jouir de la solitude qui lui était souvent apparue comme la chose vraiment nécessaire au bonheur en ce monde. Ce fut une heureuse inspiration que celle qui tourna ses pensées vers la tante Compton, car tout incertain qu'était le résultat de sa tentative, l'espoir seul était assez puissant pour la sauver du découragement complet qui l'eût envahi sans cela. Plus elle songeait à être secourue par la pitié de la famille et du colonel Hubert, plus elle se sentait attristée. Qu'elle fût sollicitée ou offerte, cette protection n'était-elle pas une simple aumône? Cette pensée n'était pas tolérable. Elle essaya de dîner bien mélancoliquement. Ce fut une occupation de quelques instants. Puis les heures passèrent les unes après les autres, lentement, tristement, jusqu'à la chute du jour. Elle n'avait le courage de rien faire. Ses livres les plus aimés ne pouvaient parvenir à fixer son attention. Elle ne demanda pas de lumière et resta étendue sur le canapé, la tête dont elle souffrait appuyée sur son bras en guise d'oreiller. Et là, elle se mit à ressasser dans son esprit ce qui, au milieu de ses malheurs, lui causait l'angoisse la plus vive. C'était qu'au moment où elle venait de gagner l'affection de la famille du colonel Hubert, il tombait sur elle une disgrâce d'une si terrible nature qu'elle lui faisait plutôt redouter que désirer le revoir.